de la vie et de la terre.
Cours de SVT, terminale spécialité, thématique étudiée, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Grand B, le passé géologique de notre planète. Chapitre 1, le temps et les roches. Grand 3, chronologie absolue. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la datation absolue ? C'est une discipline scientifique qui se fonde sur des techniques de datation à partir d'isotopes radioactifs permettant de donner une estimation de l'âge ou de la durée d'un événement. La chronologie absolue peut utiliser différentes méthodes, mais la principale reste celle de l'utilisation d'isotopes radioactifs. Et c'est celle-là qui est étudiée en terminale, notamment. Alors elle s'applique à différentes échelles de temps, les milliers d'années, les millions d'années ou même les milliards d'années, c'est-à-dire giga-années. Grand A, méthode et principe. Comme vous avez pu le voir en premier enseignement scientifique, lorsque vous avez étudié la controverse de l'âge de la Terre et sa datation, par Claire Patterson, la chronologie absolue est basée sur la désintégration d'éléments radioactifs au cours du temps, c'est-à-dire qui se transforme en d'autres éléments avec émission de rayonnement. La datation d'échantillons s'effectue grâce à des méthodes de radiochronologie, se basant sur les principes de la désintégration radioactive, d'isotopes contenus dans les roches ou même les minéraux. On dispose donc de véritables géochronomètres qui obéissent à une loi de décroissance exponentielle en fonction du temps. La demi-vie est caractéristique de l'élément radioactif. Grâce aux lois de désintégration atomique, il est possible alors de modéliser l'évolution des quantités d'un isotope radioactif pair en isotope radiogénique fis. On peut ainsi déterminer sa demi-vie, grand T, à laquelle la moitié de la quantité d'un isotope pair se sera désintégrée en élément fis, c'est-à-dire l'autre moitié. Alors définissons tout d'abord demi-vie. La demi-vie, c'est le temps au bout duquel une concentration atteint la moitié de sa valeur initiale. Ainsi, j'ai une concentration C. À C divisé par 2, c'est la demi-vie que j'obtiens au niveau du temps. Alors maintenant, définissons l'adjectif radiogénique. Donc cet adjectif qualifie un isotope stable qui est formé à partir d'un élément radioactif. Autrement dit, un élément radioactif instable se transforme en un autre élément radiogénique stable. Alors sur quoi travaillons-nous ? Les datations sont effectuées sur des roches magmatiques ou métamorphiques, soit en utilisant des échantillons issus de la totalité de la roche, ou même en utilisant l'ensemble des minéraux de la roche. Si on ne s'intéresse qu'à l'élément pair, la loi de désintégration a une fonction qui dépend du temps et d'une constante de désintégration appelée lambda, elle-même propre à chaque isotope. La fonction de désintégration est une fonction exponentielle qui est la suivante. P de T est égal à P0 multiplié par exponentielle de moins lambda T. Alors avec le temps qui est T, donc c'est le temps écoulé, qui se calcule en années, lambda, c'est la constante de désintégration spécifique de l'élément radioactif, en années moins 1. P0, c'est le nombre initial d'éléments pairs radioactifs au temps T0. Et enfin, P de T, c'est le nombre d'éléments pairs radioactifs au moment de la mesure. Grand B, bien choisir son géochronomètre. Le calcul de l'âge dépend des matériaux étudiés et des taux d'éléments pairs et fis à l'origine. Mais cela dépend aussi des isotopes choisis qui n'auront pas la même durée de vie et donc pas la même demi-vie. Bien choisir son isotope, c'est choisir le géochronomètre le plus adapté, c'est-à-dire celui qui offrira la meilleure définition de l'âge, de la roche ou de l'événement géologique étudié, en fonction de sa composition d'origine. Ainsi, Il existe différents géochronomètres qui se distinguent par leur constante de désintégration et leur demi-vie. Parmi les couples isotopes radioactifs, isotopes radiogéniques les plus couramment utilisés en géologie, on trouve notamment le couple rubidium-strontium ou RBSR, le couple potassium-argon ou KAR, et le couple uranium-plomb ou UPB, qui sont ceux qui sont les plus étudiés en terminale et pour lesquels il vous faudra argumenter leur choix dans la datation de certaines roches. Alors, comment s'effectuera l'argumentation du choix ? Eh bien, cela se fera en fonction d'abord des minéraux présents. Est-ce que un minéral est capable de contenir un élément paire radioactif ? Et puis, ça dépendra aussi de l'hypothèse de l'âge de la roche, et donc de sa demi-vie. La chronologie relative peut précéder la chronologie absolue et peut aider au choix du géochronomètre. Donc attention à cette partie-là. Ça veut dire que quand vous avez un exercice de terminale, vous pouvez très bien avoir de la géochronologie relative d'abord et ensuite de la géochronologie absolue derrière. Petit 1. Méthode rubidium-strontium. Cette méthode est très utilisée pour dater des granites par exemple. Mais attention, en terminale, on exige de vous d'être capable de réargumenter, en tout cas de redémontrer, cette méthode-là. Donc si vous avez une méthode de radiochronologie absolue, à savoir sur le bout des doigts, c'est bien celle-ci. Alors tout d'abord, essayons de bien comprendre l'utilisation des isotopes en tant que géochronomètre. L'isotope radioactif est l'isotope stable. Le rubidium, par exemple, RB, et le strontium SR sont deux éléments chimiques existant le plus souvent à l'état de trace dans les roches. Ils se substituent en partie au potassium pour le rubidium et au calcium pour le strontium. Ainsi, les minéraux riches en potassium sont généralement riches en rubidium et ceux riches en calcium présentent souvent des teneurs élevées en strontium. Ces deux éléments existent dans la nature sous la forme de plusieurs isotopes. Deux pour le rubidium, Rb85 et Rb87, et quatre pour le strontium, Sr84, Sr86, Sr87 et Sr88. Seul l'un d'entre eux, le rubidium-87, est radioactif. Et c'est lui qui se désintègre en strontium-87. Et ce dernier, ce strontium-87, est un isotope stable du strontium, comme le sont d'ailleurs les trois autres. Cette désintégration, 1 pour 1, aboutit à l'émission d'un électron. Cette radioactivité est dite bêta-. Et je vous renvoie vers les cours de physique, justement par rapport à ces radioactivités bêta-, bêta-plus, que vous avez dû étudier en première. Mais revenons dans le contexte de la géologie. À la fin de la cristallisation d'une roche magmatique, chaque minéral, la constituant, a intégré des quantités initiales différentes des 4 isotopes du strontium et de 2 du rubidium. Le strontium-87 présent aujourd'hui dans une roche est donc la somme du strontium-87 présent à l'origine, à la formation de la roche et du strontium-87 produit par la désintégration du rubidium-87 lui-même. Alors comment aboutir à l'équation qui nous permet de trouver l'âge ? Alors le strontium-87 actuel, c'est le strontium-87 initial plus le strontium-87 qui a été formé jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, le strontium-87 actuel, c'est le strontium initial plus le rubidium-87 qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. Or, le rubidium-87 disparu, c'est égal au rubidium-87 initial moins le rubidium-87 actuel. Et le rubidium-87 actuel, c'est égal au rubidium initial 87 exponentiel de moins l'an daté. Et petite subtilité, le rubidium-87 du coup initial est égal au rubidium-87 actuel exponentiel de l'an daté. Attention, il n'y a plus le moins. Donc pour en revenir au Sr87 actuel, il est égal au Sr87 initial plus, entre parenthèses, le rubidium-87 initial moins le rubidium-87 actuel. Et ça équivaut à dire que le strontium 87 actuel est égal au strontium 87 initial plus le rubidium 87 actuel exponentiel de lambda t moins le rubidium 87 actuel. Et donc, ça nous permet d'obtenir finalement, en équation, le strontium 87 actuel, qui est égal au strontium 87 initial, plus le rubidium 87 actuel, facteur de exponentiel de lambda t moins 1. Alors le problème est que nous sommes en face de deux inconnus, le strontium 87 initial et t. Or, nous n'avons qu'une équation. Ce problème va être résolu en prenant en compte le rapport isotopique strontium 87 initial, sur le strontium 86 initial, qui est constant dans tous les minéraux d'une même roche. Il n'y a pas de désintégration des isotopes lourds dans ce cas-là. Ainsi, la quantité d'isotope 86, c'est-à-dire strontium 86, isotope stable, ne varie pas au cours du temps et on peut alors construire une droite, et cette droite s'appellera isochrone. Alors attention, parce qu'un certain nombre de conditions doivent être réunies pour que la méthode rubidium-strontium soit applicable. Notamment, que l'ensemble des roches ou des minéraux analysés doivent avoir finalement cristallisé à partir d'une source commune de strontium. C'est-à-dire que les rapports initiaux strontium-87 sur strontium-86 sont égaux. Et que le système doit être aussi clos depuis sa formation, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu ou gagné du rubidium ou du strontium en échangeant. Donc ces échanges sont possibles, par exemple, si la roche est traversée par des fluides, lorsqu'elle est soumise à un épisode métamorphique ou encore par une altération en surface. Donc il faut s'assurer que ce ne soit pas le cas. Alors quelles sont les explications que vous devez retenir en terminale et qui sont primordiales justement pour votre argumentation ? Alors tout d'abord, au temps T0, date à laquelle s'est formé le magma, tous les minéraux avaient le même rapport isotopique strontium 87 sur strontium 86, mais un rapport rubidium 87 sur strontium 86 qui est différent. Ainsi, votre isochrone au temps T0 est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Je rappelle que cette isochrone est une droite tracée de la fonction suivante, du strontium 87 sur le strontium 86, en fonction du rubidium 87 sur le strontium 86. Il faut donc que vous visualisiez bien cette droite. Alors poursuivons. Si le système reste clos, c'est-à-dire fermé, au bout d'un certain temps, chaque minéral verra son rapport isotopique rubidium 87 sur strontium 86 diminuer et son rapport isotopique strontium 87 sur strontium 86 augmenté. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, le rubidium 87 se désintègre en strontium 87, comme on l'a dit auparavant, à raison de 1 noyau pour 1 noyau. Puisque les rapports en strontium 87 et en strontium 86 augmentent, tandis que les rapports en rubidium 87 et en strontium 86 diminuent, alors dans ce cas-là, la droite obtient une pente, et cette droite est de type Y est égal à AX plus B. Du coup, il ne nous reste plus qu'à calculer la pente de la droite, c'est-à-dire le coefficient petit a. Si on prend l'équation d'origine, cette équation d'origine correspond à la suivante. Strontium 87 sur strontium 86 est égal à exponentielle de lambda t moins 1, facteur de rubidium 87 sur strontium 86, plus strontium 87 sur strontium 86 initial. Ainsi, on peut donc dégager les choses suivantes. Que strontium 87 sur strontium 86 correspond à y, que exponentielle lambda t moins 1 correspond à petit a, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite, que rubidium 87 sur strontium 86 correspond à x, et que strontium 87 sur strontium 86 initial correspond à la constante b. On a bien une droite de type y est égal à ax plus b. Et cela simplifie grandement nos affaires. Alors pourquoi ? Parce que le résultat final est une droite appelé isochrone, qui est défini soit par l'alignement de nos minéraux ou de nos échantillons mesurés. Donc son équation, elle, peut se ramener finalement au coefficient directeur. Et le coefficient directeur, c'est A, et ça équivaut à exponentielle lambda t moins 1. On peut donc trouver la fonction réciproque, ce qui nous permet de calculer l'âge. Dans ce cas-là, on obtiendra t, qui est égal à logarithme népérien de a plus 1, le tout divisé par lambda. Alors a, ça représente quoi? Le coefficient directeur de la droite, et lambda, la constante de désintégration. Ici, pour le rubidium strontium, eh bien, c'est de 1,42 10 moins 11 années moins 1. Grâce à ce couple rubidium-strontium, on est en mesure de dater des éléments qui vont varier de quelques dizaines de millions d'années à quelques milliards d'années. Alors une petite remarque importante pour les ECE et pour tout ce qui est travaux pratiques. On peut utiliser la même méthode pour la datation au samarium néodyme, soit SM147 et ND143. Dont la constante de désintégration sera 6,54 10 moins 12 années moins 1. Mais peu importe. Cette méthode permettra de dater des basaltes ou des gabbros, donc plutôt de la croûte océanique, alors que la méthode rubidium-strontium date plutôt des granites, c'est-à-dire plutôt de la croûte continentale. Petit 2, méthode potassium-argon. Le potassium K40 est radioactif et forme de l'argon AR40 radiogénique. Lorsque la roche est formée, le magma se solidifie exactement comme pour le rubidium strontium. Mais à partir de ce moment, le potassium K40 se transforme en argon AR40 qui, lui, est gazeux. Il est donc possible de quantifier l'argon formé en l'ajoutant à la quantité de potassium mesurée. Le calcul s'effectue directement grâce à une équation simple dont voici le développement. On sait que l'argon AR40 est formé à partir du potassium radioactif K40. Par simplification orale, dans tout ce qui va suivre, l'argon 40 sera appelé argon et le potassium 40 sera appelé potassium. Donc pour en revenir à notre équation, la composition initiale de potassium est K0 par rapport à une quantité de potassium à l'instant T, KT. On a donc l'équation suivante. L'argon au temps T est égal au potassium au temps 0 moins le potassium au temps T. Par ailleurs, grâce à l'équation de désintégration, on peut écrire que le potassium T est égal au potassium 0 fois exponentielle de moins lambda T. En isolant K0 d'un côté, cela revient à dire que K0 est égal à KT fois exponentielle de lambda T. On a donc alors l'argon au temps T qui est égal à K0 moins KT, c'est-à-dire KT exponentielle de lambda T moins KT. Et donc on peut factoriser KT, ce qui nous donne KT facteur de exponentielle lambda T moins 1. On isole alors T, et T est égal à 1 sur lambda de logarithme népérien de l'argon au temps T divisé par KT plus 1. Avec cette méthode, le rapport argon sur potassium au temps T est mesuré, donc on calcule facilement l'âge de la roche. L'intérêt de cette méthode est que nous pouvons aisément prélever plusieurs échantillons et faire une moyenne. Il faut juste s'assurer qu'il n'y avait pas d'argon gazeux à l'origine des temps, lors de la formation de la roche. La datation ainsi calculée varie de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de millions d'années. Petit 3, méthode uranium-plomb. Et tout d'abord, voyons cette méthode dans le cas d'un système pauvre en uranium-plomb. Alors l'élément uranium possède deux isotopes radioactifs à longue vie, l'uranium-235 et l'uranium-238. Chaque isotope se désintègre par étapes successives et est à l'origine de familles radioactives dont le dernier isotope stable est un isotope de plomb. Ainsi, l'uranium-235 donne du plomb-207 et l'uranium-238 donne du plomb-206. Quand le système se ferme, et parce qu'à cette origine, les quantités d'éléments radioactifs et radiogéniques ne sont pas connues, on peut, comme dans la méthode rubidium-strontium, utiliser l'isotope stable du plomb, non radiogénique, c'est-à-dire le plomb-204, qui sera utilisé comme référence. On obtient alors deux droites isochrones, l'une avec le plomb-207 et l'uranium-235, et l'autre avec le plomb-206 et l'uranium-238. Ce qui permet donc de tracer ces deux isochrones, comme dans la méthode rubidium-strontium. L'avantage avec ces deux isochrones est de pouvoir comparer l'âge obtenu. Cette méthode n'est valable que si les valeurs ne sont pas enrichies. Cette méthode a été utilisée notamment par Claire Patterson pour déterminer l'âge de la Terre à partir d'échantillons de sédiments et de météorites. La comparaison permettait de superposer l'âge des sédiments et des météorites et de donner donc l'âge de la Terre. Mais on peut aussi utiliser l'uranium-plomb dans un système enrichi. Dans le cas des systèmes uranium-plomb, les systèmes enrichis en uranium-238 et uranium-235 sont représentés dans les roches magmatiques par des minéraux bien repérables. Le plus courant d'entre eux est un minéral fréquemment présent dans les granites, le zircon. Quand on observe une biotite en LPNA ou en LPA, on s'aperçoit que dans cette biotite, il peut y avoir des petites taches noires qui s'étendent. Ce ne sont pas des oxydes métalliques, ce sont généralement des plages de zircon et on voit la radioactivité s'étendre autour de cette tache. C'est dans de tels granites qu'on peut tracer la courbe dite Concordia, qui correspond au point dont l'ordonnée et l'abscisse donnent des âges identiques par chacune des méthodes uranium-plomb. On calcule alors les rapports Y qui équivaut à plomb-206 sur uranium-238 et X plomb-207 sur uranium-235. Tout minéral situé sur la Concordia donne donc l'âge de cristallisation du minéral, donc du magma. Cet âge est donc déterminé graphiquement. Si le système n'a pas été perturbé, les valeurs des rapports isotopiques d'un échantillon sont situées en un point donné sur la courbe, ce qui correspond à la durée écoulée depuis que le système est clos. Mais les mesures des rapports uranium-238 sur plomb-206 et uranium-235 sur plomb-207 dans les zircons peuvent ne pas être regroupées en un point précis sur la Concordia et au contraire s'aligner sur une droite, qu'on appellera par opposition Discordia. Celle-ci recoupe la Concordia en deux points, nommés intercepts. L'intercept supérieur est donné par les zircons non perturbés. Il indique la durée écoulée depuis la première fermeture du système, correspondant donc à l'âge de cristallisation de la roche initiale. L'intercept inférieur est donné par les zircons qui se sont réouverts à cause d'un événement géologique, du métamorphisme par exemple. Cet intercept indique donc l'âge de perturbation. À noter que pour le carbone 14, la même méthode est utilisée avec une lecture graphique, mais l'étude porte plutôt sur des échantillons issus du vivant, puisque ce sont des matières carbonées qu'on analyse, et permet de dater de quelques centaines d'années à 50 000 ans tout au plus. Les relations géométriques entre les différentes roches dans un paysage ou un affleurement permettent de reconstituer une chronologie relative des événements géologiques de différentes natures et à différentes échelles d'observation. Il existe des fossiles caractéristiques appelés fossiles stratigraphiques, ayant évolué rapidement et représentant une grande extension géographique, qui peuvent être utilisés pour caractériser des intervalles de temps dans lesquels ils sont représentatifs, c'est-à-dire des biozones, et l'association de fossiles identiques dans des roches de régions géographiquement très éloignées permet de corréler ces roches dans le temps. Enfin, des coupures dans les temps géologiques ont pu être établies sur différents critères, aboutissant à l'échelle stratigraphique utilisée aujourd'hui par l'ensemble de la communauté des géologues. Cette échelle est respectée au niveau mondial. Nous avons vu aussi que la quantification d'un élément pair radioactif se désintégrant de manière continue et irréversible en éléments fils radiogéniques, permet de déterminer l'âge des minéraux constitutifs d'une roche ou un ensemble d'échantillons dont on fera ensuite la moyenne. Cette méthode est appelée la datation absolue, car elle s'oppose à la datation relative en essayant de donner une estimation de la date de formation d'une roche ou d'un événement géologique ou même sa durée. Pour bien choisir son radiochronomètre, cela dépend de sa période et de l'élément à dater. La synthèse de l'ensemble des techniques de chronologie relative et de datation absolue permet de reconstituer l'histoire géologique de la localité ou d'une région ou de l'ensemble de la Terre. Cette histoire est en partie visible sur les cartes géologiques.